la porteuse de pain, troisième partie, chapitres 51 à 55. Vous n'oublierez rien de ce qu'il vous a recommandé de faire, répéta mademoiselle Amanda. Non, madame, soyez tranquille, répéta Marianne. J'aurai à la main mes deux carafons, et je mettrai dedans le coquin, carrément. Vous verrez. Mais au fait, le verrez-vous?
Oui.
Et comment? Je serai ici, dans ce cabinet. Je vous demande, au sujet de ce que je viens de vous dire, le secret le plus absolu.
Vous pouvez y compter. Je me mordrai la langue jusqu'au sang plutôt que de lâcher un mot mal à propos.
Amanda tira de son porte-monnaie deux billets de banque de 100 francs chacun et les tendit à la servante.
Voilà ce que je vous ai promis, fit-elle.
Marianne repoussa la main de la jeune femme et répliqua. Gardez-les, madame, je vous prie.
Mais il n'y a pas de mets qui tiennent. Inutile d'être payé pour faire une bonne action et pour démasquer un coquin.
C'est bien cela, ma fille, c'est très bien. J'insiste cependant pour que vous preniez cet argent.
Vous pourrez, si vous le voulez, le donner à maman Lison, la porteuse de pain, qui certainement n'est pas riche.
De votre part alors, madame?
Non, de la vôtre.
Ce ne serait point naturel. Une pauvre fille ne peut faire de pareils cadeaux.
Je le remettrai à la patronne qui s'en chargera.
Soit, mais vous serez discrète.
N'ayez crainte.
Je serai ici à midi, et je demanderai à dîner. Arrangez-vous de façon à ce que le Dijonnais ne puisse me voir.
Il ne vous verra pas.
Et prenez ce que je vous dois, ajouta l'essayeuse de Madame Augustine en donnant à Marianne une pièce de 10 francs. La servante alla se faire rendre la monnaie au comptoir et prévint le patron que le cabinet était retenu pour midi par la personne qui s'y trouvait en ce moment. Ensuite, elle rapporta la monnaie et après avoir formulé une dernière recommandation, Amanda quitta l'établissement de la rue de Seine. C'était une bonne fille que Marianne, un cœur d'or. Elle aurait volontiers raconté par le menu ce qui s'était passé, afin de mettre à la porte le mauvais drôle qui se préparait à jouer un tour à maman Lison. Mais, ayant promis de se taire, elle comptait bien tenir sa parole. Elle voulait savoir en outre ce que dirait le Dijonnais après avoir bu le singulier mélange qu'il destinait à la porteuse de pain. Marianne éprouvait un fort grand embarras relativement aux 200 francs. À coup sûr, si elle s'adressait à la patronne, celle-ci la questionnerait. Que répondrait-elle? Tandis qu'elle songeait à ces choses, la patronne précisément l'appela. Marianne se hâta d'accourir et fut accueillie par ces mots.
« Ah ça, qu'est-ce que tu fichais dans le cabinet, paresseuse ?»«
Ma foi, madame, je causais. » »«
Tu choisissais bien ton moment. » quand l'ouvrage presse et qu'on ne sait où donner de la tête.
Il s'agissait de maman Lison.
Ah ben? Et à quel propos?
C'est une dame qui m'avait appelée et qui m'a mis ça dans la main. Et Marianne présentait les billets de banque à la patronne qui s'écria.
Ça? Mais c'est 200 francs, ça!
Oui, madame.
Et c'est pour maman Lison?
Parfaitement, oui, madame.
Eh bien, si c'est ainsi, tu avais raison de bavarder. Tu lui donneras cette jolie somme au dessert à la brave femme.
J'aime mieux que ce soit vous qui la lui donniez, patronne.
Comme tu voudras, je m'en chargerai volontiers. Maintenant, jette un coup d'œil à la table. Vois si tout est en ordre. Tu iras ensuite faire un peu de toilette, et quand tu reviendras, j'irai me requinquer à mon tour.
Marianne s'empressa d'obéir. Mademoiselle Amanda, ayant du temps devant elle, peu de temps, il est vrai, pensa qu'il était indispensable d'aller prévenir Madame Augustine qu'une affaire importante l'empêchait d'occuper sa place habituelle au salon d'essayage. Elle prit donc une voiture et se rendit rue Saint-Honoré. Elle aurait bien souhaité prévenir aussi Raoul du chemin et Étienne Castel, mais ne sachant pas où il se trouvait, ce désir ne pouvait se réaliser. Elle y renonça. Ovide, en sortant du rendez-vous des boulangers, était allé rue Jacob, où il avait déposé un mot chez M. Tiercelet, l'homme qui devait lui remettre des lettres de recommandation pour Buenos Aires. Il lui donna rendez-vous pour le lendemain et l'invitait à déjeuner. Le Dijonnais s'était rendu compte de tout ce qu'il avait à faire avant son départ fixé au lundi suivant. Le vendredi, il déjeunerait avec ledit Tiercelet. Il irait ensuite à Courbevoie trouver Paul Armand, toucherait les 5
toucherait les 500 000 francs promis et dînerait en compagnie du pseudo-cousin. Le samedi, il terminerait ses acquisitions. Le dimanche, il ferait porter ses malles à la consigne de la gare du Havre et le lundi matin, il filerait par l'express pour s'embarquer le soir sur un steamer transatlantique. Ses papiers bien en règle reposaient dans son portefeuille. Ovide n'avait point à songer à l'emploi de son temps pour la soirée du jour même où allait avoir lieu le banquet offert à la porteuse de pain. « J'irai passer 2 ou 3 heures n'importe où, dans un théâtre ou dans un café chantant », se disait-il. Le dépôt de la lettre effectué chez M. Tiercelet, il flâna dans les environs de la rue Jacob, attendant que le moment fût venu d'aller prendre un bitère au rendez-vous des boulangers. Jeanne Fortier, pendant ce temps, se faisait belle, pour employer l'expression dont elle s'était servie. La pauvre femme pleurait de joie en détaillant à Lucie les marques d'estime et d'affection qu'on lui prodiguait et qui la rehaussaient à ses propres yeux. « Je voudrais que vous soyez là, chère mignonne, » lui disait-elle. « Je serais si heureuse que vous voyiez combien ces braves gens m'aiment. »« Qui ne vous aimerait, maman Lison ?» répondit la jeune fille. « Pour ne point vous aimer, il faudrait n'avoir pas de cœur. » Et elle aidait Jeanne Fortier, sa mère, à s'habiller. Midi approchait. Il fallait du temps pour aller du quai Bourbon à la rue de Seine. La porteuse de pain embrassa Lucie avec effusion et partit. « Brave femme !» pensa la jeune fille en la regardant descendre l'escalier. « Je la chéris comme si elle était ma mère. » Et elle entra dans sa petite chambre qui lui parut plus triste que de coutume. En quittant du chemin, Étienne Castel, nous le savons, s'était fait conduire aux ateliers de Paul Armand. Celui-ci venait de rentrer après avoir déjeuné avec Lucien Labroux. Il était seul dans son cabinet. Lucien, ayant à surveiller des travaux dans les ateliers d'ajustage, traversait la cour pour s'y rendre lorsqu'il aperçut Étienne se dirigeant vers les bureaux. Il le reconnut et alla vivement à sa rencontre. Étienne, de son côté, hâta le pas en souriant. Les deux hommes se serrèrent la main. « Vous ici, mon cher artiste ?» lui dit Lucien. « Comme vous voyez, mon jeune ami. » « Quel motif vous amène ?»«
Une fantaisie. J'ai envie de visiter les ateliers. Je songe à mettre dans un tableau un intérieur d'usine. Monsieur Armand est-il ici ?»«
Nous avons déjeuné ensemble et nous venons de rentrer. Voulez-vous que je vous conduise à son cabinet ?»«
Vous me ferez plaisir. »
Lucien servit de guide à l'artiste.
« J'ai vu Mademoiselle Mary tout à l'heure, » fit celui-ci tout en marchant. « La pauvre enfant n'a plus que quelques jours à vivre. »
« Ah, monsieur, » répondit Lucien avec un geste de découragement, « je suis à bout de force pour jouer le rôle que vous m'avez imposé dans un but qui m'est inconnu. Ce but, je vous le répète, est votre bonheur. Ayez confiance en moi. L'attente désormais sera courte. Mais je souffre le martyre en jouant une comédie qui me semble sacrilège. Plus vous souffrirez, plus votre bonheur sera grand. C'est la loi des contrastes. À propos, je vous invite à dîner aujourd'hui avec M. Paul Armand et moi. J'accepte bien volontiers. On était arrivé au bâtiment des bureaux. Lucien frappa à la porte du cabinet du maître. Entrez, dit Paul Armand depuis l'intérieur. Le jeune homme ouvrit. Une visite inattendue, monsieur, fit-il. Le millionnaire aperçut Étienne Castel.
Ah, parbleu, oui, s'écria-t-il en se levant pour aller lui tendre la main.
« Très inattendu, mais très bienvenu. Quel motif vous amène à Courbevoie, cher monsieur Castel ?»
Malgré la profonde répugnance qu'Étienne éprouvait à l'endroit du grand industriel, il ne put faire autrement que de prendre et de serrer la main tendue vers lui et répondit.
« La curiosité !»«
La curiosité ?» répéta le millionnaire.
« Vraiment ?»«
Mon Dieu, oui !»
L'artiste réédita l'explication que nous venons de l'entendre donner à Lucien. Puis il ajouta «
C'était une idée fixe chez moi, et je me suis présenté ce matin à l'hôtel de la rue Murillo, comptant vous prier de m'amener avec vous à Courbevoie.
« Vous avez vu ma fille ?» demanda Paul Armand.
« Oui, » répondit l'artiste, « et Mademoiselle Mary m'a affirmé que vous resteriez à l'usine toute la journée. C'est en effet mon intention. J'ai des notes à classer, tout un monde de notes.
Je vous dérange alors ?
En aucune façon. Le classement en question peut se remettre, et votre bonne visite sera pour moi, au milieu de mes travaux, une distraction précieuse.
Il est convenu, n'est-ce pas, que nous dînerons ensemble ? Reprit Étienne Castel.
Chez moi, fit le millionnaire.
Mademoiselle Mary m'a dit que vous ne deviez point rentrer.
Elle ne vous attend pas.
J'avais en effet un rendez-vous pour ce soir, mais une dépêche qui vient de m'arriver le contremande.
Raison de plus pour accepter mon invitation. Nous retournerons à Paris et nous irons dîner au cabaret.
Monsieur Labroux a bien voulu me promettre d'être des nôtres.
Je vous préviens, cher monsieur Armand, qu'en refusant, vous me désobligeriez beaucoup.
J'accepte donc, et avec le plus grand plaisir. Ma soirée vous appartient.
Merci.
Lucien avait quitté le cabinet pour aller diriger un travail important. Permettez-moi de vous montrer le chemin des ateliers, fit Paul Armand en prenant son chapeau. Nous visiterons tout. Je ne vous ferai grâce d'aucun détail. Je vous en saurai un gré infini. Les deux hommes allaient sortir du bureau lorsque le concierge de l'usine se présenta, une dépêche à la main.
« Pour monsieur, » dit-il.
Paul Armand prit le télégramme.
« Ce doit être notre dépêche, » pensa l'artiste.
« Vous permettez ?» fit le millionnaire.
« Certes, ne vous occupez pas de moi, je vous en prie. »
L'ex-Jacques Garot s'approcha de la fenêtre et déchira l'enveloppe du télégramme. Il lut et son front se rembrunit. Étienne Castel l'observait à la dérobée.
« Que signifie cela ?» se demanda l'industriel en pliant la dépêche et en la mettant dans sa poche. Ce matin, il contremandait le rendez-vous donné, et voici maintenant qu'il m'en assigne un autre. Que se passe-t-il donc ?
Vous semblez soucieux, dit l'artiste. Est-ce un ennui qui vous arrive ?
C'est un ennui, en effet, car une affaire imprévue et très urgente me force à décliner l'invitation acceptée par moi tout à l'heure avec tant de plaisir. Je dois être à 9 heures chez un de mes clients.
« Vous y serez, cher monsieur Armand, et sans rien changer à nos projets, » répliqua le peintre. « Nous dînerons à 6 heures précises dans le quartier où vous avez affaire, et à 8 heures et demie, vous nous quitterez sans façon pour aller chez votre client. »«
Mais...
oh, il n'y a pas de mais qui tienne !» interrompit Étienne Castel en riant. « J'insiste, et je maintiens mon droit. Vous ne me priverez pas aussi facilement que vous le croyez du plaisir de passer 2 heures à table en votre compagnie. Allons, je me rends. Mais à 8 heures et demie, vous me permettrez de vous quitter.
C'est convenu. Dans quel quartier vous appellera votre rendez-vous ?
Dans le quartier Saint-Lazare, place de l'Europe.
Eh bien, je connais, place du Havre, un restaurant possible. Nous y arriverons à 6 heures moins 5 minutes. À 6 heures, nous nous mettrons à table et vous serez libre en temps opportun.
C'est dit. Allons visiter mes ateliers. Et Paul Armand se fit le cicérone de l'artiste au milieu du dédale de l'usine.
Étienne Castel pensait tout bas. À coup sûr, le rendez-vous en question est celui que lui assigne notre dépêche signée au vide. Il ne doit point aller place de l'Europe, mais dans les environs. Peu importe d'ailleurs, Raoul Duchemin ne nous perdra pas de vue et le suivra en quelque endroit qu'il se rende. Nous laisserons le millionnaire et l'artiste visiter la fabrique dans tous ses détails et nous rejoindrons l'ex-employé de la mairie de Joigny. Celui-ci avait attendu pendant 1 heure sa jumelle braquée sur la porte de l'usine. Il avait vu Étienne Castel descendre de voiture, entrer dans la cour, y rencontrer Lucien Labroux et disparaître en sa compagnie.
« Paul Armand est là, » se dit Raoul Duchemin. « Je vais me procurer une pince et une voiture. » Il traversa le pont et flâna dans les rues de Courbevoie jusqu'à ce qu'il eût trouvé la boutique d'un quincaillier talandier. Là, il fit l'emplette non seulement d'une pince, mais d'une scie à main, d'un tournevis et d'un ciseau à froid. « Deux précautions valent mieux qu'une, » pensait-il, en faisant envelopper solidement ses acquisitions dans une feuille de papier fort épais. Ensuite, il se dirigea vers la station des voitures, prit un fiacre à l'heure, mit son paquet sur l'une des banquettes et donna l'ordre au cocher de le conduire à l'endroit où il avait établi son observatoire. Là, il s'arma de patience et tua le temps de son mieux en fumant force cigarette. À 5 heures, il vit Paul Armand sortir de l'usine avec Étienne Castel et une troisième personne qui n'était autre que Lucien Labroux. Tous trois s'installèrent dans le coupé de régie gardé par l'artiste depuis le matin. Raoul Duchemin dit à son cocher « Un coupé de louage va traverser le pont. Je vous le montrerai au passage. Il faut le suivre et vous arranger pour ne pas le perdre de vue. Je vous donnerai 20 francs de pourboire. »
« On le suivra, » répondit le cocher.
« Pour 20 francs, je crèverai s'il le faut mon poulet d'Inde.
Ça m'est égal, il est au bourgeois. »
Puis il attendit le fouet en main. Le coupé d'Étienne Castel apparut, débouchant du pont.
« Est-ce celui-là ? » demanda le cocher à Raoul en se penchant vers la portière.
« Oui, » répliqua le jeune homme.
« Alors, en chasse, allons-y gaiement. »
À 6h15, les deux voitures s'arrêtaient place du Havre, à 20 pas de distance l'une de l'autre. Les trois hommes descendirent du coupé de Régis et entrèrent dans le restaurant qui se trouve à côté du passage. Duchemin quitta son fiacre, paya son cocher et à son tour franchit le seuil du restaurant. Il jeta un coup d'œil autour de la salle, n'y vit point ceux qu'il cherchait et appela un garçon.
« Vous avez des cabinets particuliers ?» lui demanda-t-il.
« Oui, monsieur, au premier. »
Le restaurant a-t-il une autre issue que celle donnant sur la rue ?
Il a celle-ci, monsieur, sur le passage.
Et aucune autre ?
Aucune autre, monsieur.
C'est bien, merci. Servez-moi à dîner.
Et Raoul s'installa à une table d'où il voyait les deux portes de sortie. Laissons le jeune homme en observation et retournons rue de Seine au rendez-vous des boulangers. Il était 12h15. Tous les souscripteurs du banquet offert à la porteuse de pain se montraient exacts et sirotaient des apéritifs en attendant l'héroïne de la fête qui n'était point encore arrivée. Depuis 10 minutes, Mademoiselle Amanda, revenue chez Madame Augustine avec la permission de s'absenter, s'il le fallait toute l'après-midi, avait pris possession du cabinet où Marianne s'apprêtait à la servir.
« Vous ferez ce que vous m'avez promis, n'est-ce pas ? » demanda l'essayeuse à la servante.
« Je le ferai, madame, et sans hésiter, ne craignez rien. »
Puis Marianne retourna dans la salle du banquet. Malgré l'animation verbeuse et bruyante dont il faisait parade au milieu des groupes, Ovide Solivo se sentait fort inquiet. Il ne voyait point les personnages sur lesquels il comptait, c'est-à-dire les agents de la sûreté, qui cependant ne pouvaient manquer de venir après la dénonciation du matin et qu'il devinerait du premier coup d'œil. Marianne vint à passer près de lui.
« Eh bien, ma bonne fille, lui dit-il, avons-nous mis nos boucles d'oreilles ? » ?»«
Bien sûr que oui, répondit la servante en les lui montrant, et même qu'elles me vont joliment. »
Ovide se pencha vers elle, comme pour regarder les bijoux en question, et poursuivit à voix basse.
« Vous n'avez rien oublié de ce dont nous sommes convenus. »
« Non, non, soyez paisible, mon carafon est prêt, je m'en servirai après le café. »
Et Marianne, appelée par sa patronne, s'esquiva. En ce moment, un sous-officier du train des équipages venait d'entrer dans la salle, accompagné d'un bon paysan d'une 60aine d'années. Solivo les enveloppa d'un regard perçant et le nuage qui couvrait son front se dissipa.
« Voilà les agents, » murmura-t-il.
« N'importe qui se laisserait prendre à leur déguisement. Mais moi j'ai l'œil américain. Tout va bien. »
Le gredin ne se trompait point. Les deux nouveaux venus étaient en effet Brichard et Montel, les deux hommes expédiés par le chef de la sûreté.
« Oh oh, paraîtrait qu'on est en fête chez vous !» dit le faux paysan à Marianne. « Ça va-t-il vous empêcher de nous donner à déjeuner, ma fille ?»«
Mais pas du tout, messieurs, » répliqua la servante.
« Venez par ici, je vais vous installer à une table où on vous servira. »
Et elle les conduisit à l'endroit où le matin Ovide s'était placé, par conséquent tout près du vitrage. Les deux agents s'installèrent.
« Vous serez bien là, je pense, » reprit Marianne.
« Parfaitement, » reprit Brichard, le faux paysan.
« Êtes-vous pressé ? » ?»«
Pas le moins du monde. Pourvu que nous puissions prendre le train de Versailles à 5 heures, c'est tout ce qu'il nous faut, » dit le sous-officier du train des équipages.
« Ça va bien, alors. Vous entendrez rire et chanter tout à votre aise. Qu'est-ce qu'il faut vous servir ? » ?»«
2 absinthes, d'abord. Nous verrons après. »
Marianne fit apporter par un garçon les absinthes demandées. En ce moment, une porteuse de pain entra en courant.
« Mes enfants » cria-t-elle. « V'là maman Lison qui arrive. Je viens de la voir tourner la rue. »«
Attention alors !» dit le Lyonnais. « Le plus ancien de la boulange ici présent donnera le bouquet. »
Un homme de 60 et quelques années alla prendre un énorme bouquet posé sur une table et vint se placer dans les rangs des convives. « Quand maman Lison entrera, » fit à son tour le tourangeau, « vous savez ce qui est convenu. »«
Oui, oui.
Maintenant, plus un mot. »
Le silence s'établit comme par enchantement. Brichard et Montel braquaient du côté de la porte leur regard de policier. Jeanne Fortier parut.
« Vive Lise Perrin » cria-t-on de toutes parts. et l'homme au bouquet vint au devant de la porteuse de pain.
« Maman Lison, lui dit-il d'une voix émue, acceptez ce bouquet que vos bons amis sont contents de vous offrir en signe de réjouissance. » Un nouveau cri général de « Vive Lise Perrin !» remplit la vaste salle. La porteuse de pain s'essuyait les yeux. Le faux paysan se pencha vers le pseudo-sous-officier et lui glissa dans l'oreille ces mots.
« Pas possible que cette brave femme soit l'évadée de Clermont.
Attendons pour juger.
Elle a l'air si honnête.
Les apparences sont souvent trompeuses. Et la preuve, c'est que ni toi ni moi ne sommes ce dont nous avons l'air. »
On se foulait pour embrasser la porteuse de pain qui, dominée par une émotion bien naturelle, ne savait plus auquel entendre. Le Lyonnais lui tendit un verre. Elle le prit d'une main tremblante et, avant de l'approcher de ses lèvres, murmura d'une voix presque indistincte.
« Mes amis, mes chers amis, je bois à votre santé. »
« Le dîner est servi. À table !» disait la maîtresse du rendez-vous des boulangers d'un ton de commandement. Le Tourangeau et le Lyonnais installèrent Jeanne Fortier à la place d'honneur et le bouquet qui venait de lui être offert occupa le milieu de la table dans un broc de faïence à fleurs. Le banquet commença. Ovide Soliveau se trouvait presque à côté de Jeanne, sur le même rang, et par son entrain, il égayait notablement les convives. Nous ne donnerons point le menu du banquet, comme font les journaux bien renseignés, quand il s'agit d'un repas officiel. Il nous suffira de dire qu'il était copieux et que pour une modique cotisation de 6 francs par tête, la maîtresse de la maison avait superbement fait les choses. Les deux agents de la sûreté profitaient de ce festin dans une certaine mesure. Le déjeuner qu'on leur servait leur semblait succulent. Amanda, anxieuse, impatiente, attendait avec fièvre le dénouement de cette pièce qui, commencée en vaudeville, devait, selon toute apparence, finir en drame. Elle seule trouvait le temps très long. Il était 3h30 lorsqu'on mit le café sur la table. La servante Marianne, prise de tremblements nerveux, guettait le signal que devait lui donner le Dijonnais. Elle se dirigea vers la petite table sur laquelle s'alignaient les flacons de liqueur. « Vous ne servirez pas la chartreuse, Jacques, » dit-elle au sommelier. « C'est moi qui m'en charge. »«
Suffit, Marianne. »
La jeune fille, fouillant dans sa poche, en retira un carafon qu'elle plaça en tête des autres. Ovide, qui la suivait de l'œil depuis quelques minutes, remarqua ce mouvement. « Allons, » se dit-il in petto, « elle n'oublie rien. Dans une demi-heure, je crois que nous allons rire. » Il se leva. « Ah ah !» fit le Tourangeau. « Voilà le Dijonnais qui va nous en chanter une bien bonne. Bravo, Dijonnais. S'il y a un refrain à la chanson, nous le reprendrons en chœur. Et de grand cœur. »
Oui, oui, qu'il chante !» cria-t-on de tous côtés.
Soliveau mit la main droite sur le côté gauche de sa poitrine et fit un salut comique. « Je chanterai certainement, camarade, puisqu'on me fait l'honneur de m'y inviter, » répliqua-t-il ensuite. « Je chanterai tant qu'on voudra et tout ce qu'on voudra. Mais auparavant, je demande la parole. »«
On te la donne à l'unanimité, » fit le Lyonnais.
« J'abote ma vieille, nous sommes toutes oreilles. » Avant de venir au rendez-vous des boulangers, commença Soliveau, je ne connaissais pas maman Lison, mes camarades. Mais par vous, j'ai appris à la connaître, à l'aimer et à l'estimer. C'est une digne et brave femme. Je suis heureux de lui offrir un petit cadeau et je serai fier si elle veut bien l'accepter.
Bravo, bravo!
Voilà une riche idée. On ne peut pas dire le contraire.
Vas-y du cadeau, mon vieux Dijonnais, fit le Tourangeau. Montre-nous ça.
Ovide quitta sa place et se dirigea vers Jeanne Fortier, qui se leva et se tourna vers lui. « Madame Perrin, lui dit le misérable en lui présentant un petit écrin, faites-moi le grand plaisir d'accepter cela et le grand honneur de me permettre de vous embrasser. » Jeanne tendit ses deux joues sur lesquelles le complice de Paul Armand posa 2 baisers de Judas. On applaudit avec enthousiasme. Puis, aux applaudissements, succédèrent ces mots répétés autour de la table.
Voyons le cadeau! Voyons le cadeau!
Jeanne Fortier ouvrit la mignonne boîte de maroquin et poussa un cri d'admiration. L'écrin passa de convive en convive et son contenu fut admiré comme il convenait.
Dijonnais, mon garçon, je vous félicite. Vous savez vous conduire avec les dames, fit la maîtresse de l'établissement. Pour un joli cadeau, c'est un joli cadeau. Mais faut arroser ça.
Tout est prévu, répondit Ovide. J'offre une tournée de vraies chartreuses.
Vive le Dijonnais !
Cria-t-on. Marianne, entendant la réplique, était accourue avec deux carafons de liqueur d'un verre d'émeraude.
À vous d'abord, maman Lison, fit-elle.
Jeanne tendit son verre. La jeune servante le remplit jusqu'au bord, puis elle reprit en s'adressant à Soliveau.
À vous maintenant, monsieur le Dijonnais.
Avec une habileté de prestidigitateur, Marianne avait changé de main les flacons, et quand Ovide présenta son verre, elle lui versa la chartreuse à laquelle il avait mêlé une dose de liqueur canadienne.
À votre santé, maman Lison, s'écria le gredin. Nous allons trinquer, s'il vous plaît.
De tout mon cœur. Les deux récipients se choquèrent, puis Soliveau et la porteuse de pain les vidèrent d'un seul trait. Amanda, les tempes mouillées de gouttelettes de sueur, les yeux fixés sur Ovide, sur Jeanne Fortier et sur Marianne, par un entrebâillement du rideau, n'avait pas perdu un seul mouvement des trois personnages que nous venons de nommer. Lorsqu'elle vit Soliveau vider son verre, elle eut dans les prunelles la lueur fauve d'un regard de tigresse. « Tu es perdu maintenant, bandit » murmura-t-elle. « J'en jurerai. Un pressentiment me l'annonce et ne me trompe pas. »
La maîtresse du rendez-vous des boulangers s'avança vers la porteuse de pain et lui dit « Présentement, c'est à mon tour, maman Lison. Il n'y a pas que les gens de la boulange qui soient vos amis et qui vous portent un grand intérêt. Il y a aussi les personnes que vous fournissez. Et voici ce que l'une d'elles m'a prié de vous remettre. »
Et elle posa sur l'assiette de Jeanne les 200 francs donnés par Marianne, mais changés par elle en pièces d'or. Un hourra général accueillit cette largesse. Jeanne embrassa l'hôtelière.
« Nous nous sommes suffisamment attendris, » fit alors le Lyonnais. « Le moment est venu de s'égayer. Il s'agit de chanter. Chacun dira la sienne. Je commence. »
On se tut aussitôt pour écouter. Ovide, les yeux fixés sur Jeanne, attendait l'effet de la liqueur canadienne. Le Lyonnais termina sa chanson au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. On trinqua de nouveau.
« Au Dijonnais !» dit le Tourangeau. « C'est le tour du Dijonnais !»
« Oui, oui, oui !» Et sur l'air des lampions, les convives répétèrent en tapant des pieds.
« Au Dijonnais ! Au Dijonnais !»
Ovide se leva et, sans cesser de regarder la porteuse de pain, il entama une gaudriole empruntée au répertoire de l'Alcazar d'hiver. Au milieu du deuxième couplet, il s'arrêta et passa la main sur son front. La mémoire paraissait lui faire brusquement défaut.
« Te voilà en plan, ma vieille !» fit le Lyonnais avec un gros rire. « Bois un coup, tu te souviendras !»
Mais Ovide ne cherchait pas les derniers vers du couplet interrompu. Un nuage venait de s'étendre tout à coup sur sa pensée. L'effet de la liqueur canadienne commençait à se produire. Marianne, prise d'une émotion instinctive, le regardait avec une sorte d'effroi. Les deux agents de la sûreté, les coudes sur la table, dressaient l'oreille.
« Est-ce l'incident annoncé ?» se demandait-il. « Ça sera-t-il pour aujourd'hui, Dijonnais »
criait-on de toutes parts.
« Vas-tu te remettre à chanter ?»
Ovide promena lentement autour de lui un regard sans expression.
« Chanter ?» répéta-t-il d'un ton singulier et d'une voix méconnaissable. « Il s'agit bien de chanter !»
Une stupeur générale envahit les convives à la vue de l'étrange attitude de Soliveau et de ses yeux démesurément ouverts.
« Ah ça ? Mais est-ce qu'il devient fou ?» dit la maîtresse de l'établissement. « Ce n'est pas moi qui suis fou !» répondit le misérable. « C'est vous, mes braves gens !»
Et il accompagna ses paroles d'un long éclat de rire.
« Voyons, voyons !» fit la patronne en s'approchant du Dijonnais. « Remettez-vous, revenez à vous, monsieur Pierre Lebrun !»« Vous voyez bien que vous êtes folle, vous, la grosse !»
répliqua le pseudo-baron de Reiss.
« Je ne m'appelle pas Pierre Lebrun. Je m'appelle Ovide Soliveau. Je ne suis pas ouvrier boulanger. Je suis bourgeois. Je vis de mes rentes. Grâce à mon cousin millionnaire, dont vous avez tous entendu parler. Mon cousin Paul Armand. »
En entendant ce nom, Jeanne Fortier tressaillit et devint très pâle. Tout le monde s'était levé. On faisait cercle autour d'Ovide. On le regardait avec surprise. On l'écoutait avec inquiétude. Il poursuivit.
« Paul Armand, vous savez bien, le mécanicien fameux, le grand constructeur de Courbevoie. Je vous ai dit que c'était mon cousin. Eh bien, pas du tout. Nous ne sommes parents ni d'Ève ni d'Adam.
C'est tout bonnement un voleur, ce notable personnage. Un voleur, un incendiaire et un assassin. Parole d'honneur. Nous avons fait connaissance il y a 21 ans entre l'Angleterre et l'Amérique. Sur le paquebot, le Lord Mayor. Il se sauvait de France parce qu'il venait de commettre toute une ribambelle de crimes, le gaillard. Il allait à New York. Il avait pris un nom de fantaisie. Celui de mon cousin, Paul Armand, décédé depuis peu. Je l'ai pincé au demi-cercle, moi, très malin. Et depuis 21 ans, pour acheter mon silence, il me laisse puiser dans sa caisse. Inépuisable, sa caisse. Plus on y prend, plus il en reste. Une tranche du Pérou, quoi. Oh, il en a des millions, mon cousin Paul Armand. Qui n'est pas mon cousin, qui ne se nomme pas Paul Armand, et qui, de son vrai nom, s'appelle Jacques Garot.
Jacques Garot ? Répéta la porteuse de pain, affolée, éperdue, en s'élançant vers Ovide et en lui prenant le bras. « Vous avez dit que Paul Armand se nommait Jacques Garot ? Vous avez bien dit cela, n'est-ce pas ?» Les yeux de Soliveau devenaient étincelants. Les traits de son visage se crispaient.
« Oui, je l'ai dit, » répliqua-t-il. « Je l'ai dit et je le répète. Jacques Garot, le voleur, l'incendiaire et l'assassin. Jacques Garot qui a tué son patron Jules Labroux à Alfortville, il y a 21 ans. Ah, il ne se doutait guère dans ce temps-là que je découvrirais tout cela. Mais je soupçonnais quelque chose, et je lui avais versé, comme à toi, Lise Perrin, la liqueur canadienne, qui force les gens à parler, même quand ils n'en ont pas envie. Aussi, tu vas bavarder, ma vieille, bavarder comme une piborgne.
Moi ? Fit Jeanne, croyant sentir sa raison s'égarer. Que veut-il dire ?
Il veut dire, répliqua Marianne, qu'il avait préparé pour vous une liqueur diabolique, et que c'est lui qui vient de la boire.
Ovide n'écoutait pas. Les yeux injectés de sang, le corps secoué d'un tressaillement convulsif, il poursuivit.
La liqueur canadienne, la liqueur qui a forcé Jacques Garot à parler, et qui va te faire avouer tout haut, devant tout le monde, que tu n'es pas Lise Perrin, que tu es Jeanne Fortier.
Taisez-vous, taisez-vous ! Cria la porteuse de pain avec une épouvante inouïe.
« Jeanne Fortier, » continua Soliveau, « Jeanne Fortier dont j'ai voulu tuer la fille. Jeanne Fortier que j'ai tenté vainement d'écraser sous l'échafaudage de la rue Gillecoeur. Jeanne Fortier condamnée à la réclusion perpétuelle et évadée de la maison centrale de Clermont. » Un cri d'effroi s'échappa de toutes les poitrines. Un sentiment de répulsion se peignit sur tous les visages, et le cercle formé autour de Jeanne et de Soliveau s'élargit. Mais déjà la porteuse de pain avait envisagé la question sous son vrai jour.
« Ah, misérable » dit-elle en relevant la tête. « Misérable, tu crois me perdre et tu me sauves. Jeanne Fortier, condamnée pour incendie, pour vol et pour assassinat, c'est toi !» hurla le Dijonnais.
« Oui, c'est moi, c'est bien moi !» s'écria Jeanne Fortier, « que dans ton aveuglement tu viens de réhabiliter. » « Oui, mes amis, je suis Jeanne Fortier, Jeanne la condamnée, Jeanne l'évadée. Mais j'avais été condamnée pour les crimes commis par Jacques Garot. Vous en avez entendu l'aveu de la bouche de cet homme. Mais si je me suis évadée, c'est pour retrouver mes enfants, ma fille, qu'il a voulu assassiner comme moi. J'ai des témoins de tes paroles, misérable, et ils sont nombreux. Grâce à toi, j'obtiendrai ma réhabilitation. Grâce à toi, je ne laisserai point à mes enfants un nom déshonoré. »
La porteuse de pain ajouta après un silence, « Vous savez maintenant qui je suis, mes amis. Vous connaissez ma vie, mes malheurs. Jugez-moi. Me condamnez-vous ? » Tout le monde courut à Jeanne, toutes les mains se tendirent pour serrer la sienne. Ovide, lui, venait de tomber sur une chaise et se débattait dans une violente crise nerveuse. À cette minute précise, les agents de la sûreté écartèrent la foule qui se pressait autour de Maman Lison, et l'un d'eux lui dit, en lui mettant la main sur l'épaule, « Jeanne Fortier, évadée de la prison de Clermont, je vous arrête au nom de la loi. »«
Vous m'arrêtez ?» balbutia la malheureuse femme anéantie. Un murmure de colère gronda autour des agents. Le Lyonnais s'avança.
« Arrêtez, Maman Lison, la plus brave femme qu'il y ait au monde » s'écria-t-il. « Jamais !»«
Obéissez à la loi. Laissez-nous faire notre devoir, » reprit l'agent.
« Jamais » répéta-t-on de toutes parts. « Si vous voulez arrêter quelqu'un, empoignez ce gredin !» fit le tourangeau en désignant Ovide.
mais ne touchez pas à maman Lison. Il faut que force reste à la loi.
Non, non.
Allons, filez, maman Lison, filez vite, glissa le Lyonnais dans l'oreille de Jeanne. Ne vous laissez pas prendre. Vous avez à travailler pour le bonheur de vos enfants. Un groupe compact se forma aussitôt, entourant la porteuse de pain et la poussant vers les cuisines où se trouvait une issue donnant sur la rue voisine. Les agents, voyant qu'ils ne pouvaient l'emporter contre tous, n'essayèrent point la lutte. Olvide Soliveau, dont la crise nerveuse grandissait, tomba sur le plancher en se débattant. « Il paraît bien malade, » fit la servante Marianne en le regardant d'un air de profond dégoût. « Qu'il crève comme un chien, il ne l'aura pas volé. » « Non, non, » répliqua l'un des agents, « il est essentiel que cet homme vive et qu'il puisse répéter au juge d'instruction les aveux que nous venons d'entendre. « Un médecin, vite, un médecin !»« Il y en a un dans la maison, » dit la patronne, « le docteur Richard. « Marianne, courez le chercher !»« Oui, bourgeoise !» La servante sortit en courant. Ovide se tordait comme un serpent coupé. Sa tête donnait de grands coups sur le plancher. L'écume lui sortait de la bouche. On l'entourait avec terreur. Marianne rentra avec le médecin. Celui-ci s'approcha vivement d'Ovide et, après l'avoir regardé, recula en s'écriant. « Lui ? Lui ? Vous connaissez cet homme, monsieur le docteur ?» demanda l'un des policiers. « Oui, monsieur. Je suis agent de la sûreté. Pouvez-vous me dire son vrai nom ?»«
Ovide Soliveau ? C'est un misérable. »«
Va-t-il mourir ?»«
Non, monsieur. Il n'est pas en danger. Il vient tout simplement de boire une liqueur préparée au Canada et dont les effets me sont bien connus. » »«
J'ai déjà eu l'occasion de me trouver en rapport avec ce triste personnage. Dans quelques instants, la crise qu'il subit prendra fin et vous pourrez l'emmener. » »«
Les soins d'un médecin sont inutiles. Par conséquent, je n'ai rien à faire ici. » Le docteur salua et se retira. Au moment où il passait auprès du vitrage du cabinet, Amanda le reconnut.
« C'est le médecin de Bois-le-Roi, » se dit-elle.
Ainsi que venait de l'annoncer le docteur Richard, la crise se calma rapidement. Les mouvements convulsifs cessèrent de se manifester et cédèrent la place à un engourdissement quasi léthargique. L'un des agents alla chercher une voiture dans laquelle on porta le corps inerte du gredin. Puis le second policier dit à la maîtresse de l'établissement « Vous aurez à répondre, madame, des faits qui viennent de se passer chez vous. On a résisté ouvertement à la loi. On a prêté les mains à une évasion. C'est grave, c'est très grave.
« Eh, monsieur, que pouvais-je faire ?» répliqua la patronne du rendez-vous des boulangers.
« La justice appréciera. » Des ordres furent donnés au cocher et le fiacre roula vers la préfecture, emportant Ovide Soliveau et les agents. Dès qu'ils furent partis, la servante Marianne s'élança vers le cabinet où dînait Mademoiselle Amanda. Ce cabinet était vide. L'essayeuse de Madame Augustine avait disparu en laissant une pièce de 5 francs sur la table pour payer sa dépense. Ne s'attendant en aucune façon à l'intervention de la police, la jeune femme s'était effrayée des conséquences que l'arrestation d'Ovide Soliveau pouvait avoir pour elle. On allait connaître l'adresse de ce misérable. On ferait une perquisition chez lui. On y trouverait sans doute des notes la concernant, et le terrible papier acheté par le pseudo-baron de Reiss à la modiste de Joigny. Elle se dit qu'il fallait avant toute chose prévenir Étienne Castel de ce qui se passait. Elle sortit du cabinet, puis de l'établissement, prit une voiture et se fit conduire rue d'Assas. Elle ne trouva que le valet de chambre, surveillant 2 ouvriers encadreurs en train de placer dans une caisse de bois blanc le tableau que nos lecteurs connaissent et qu'on devait le lendemain porté chez Georges Darier, avec le petit cheval de carton confié par le jeune homme à son ex-tuteur. Aux questions de la visiteuse, le domestique répondit « Monsieur Castel n'est point chez lui, madame. Il est sorti dès le matin. Savez-vous à quelle heure il entrera ?»«
Non, madame, monsieur ne m'a rien dit. » »«
Veuillez prendre note de mon nom et avertir monsieur Castel que je suis venue et que ma visite avait un très sérieux motif. »«
Bien, madame. Madame reviendra-t-elle ?»
« J'ignore si cela me sera possible. »«
Le nom de madame ?»«
Amanda Régami. »«
Je vais l'écrire pour être sûre de ne pas l'oublier. »
L'essayeuse rejoignit la voiture qui l'attendait et donna au cocher l'adresse de la rue des Dames. Elle espérait trouver, sinon Raoul Duchemin, du moins un mot de lui qui pût la renseigner. Espérance vaine. Raoul n'était point là et n'avait pas écrit.
« À quelle heure est-il parti ?» demanda la jeune femme au concierge.
« Vers 10h30. »«
Seul ?
Non, avec le monsieur qui avait laissé hier sa carte de visite.
Et il ne vous a rien dit pour moi ?
Non, mademoiselle, pas un mot.
Amanda monta chez elle fort perplexe.
Quel parti prendre ? Aller voir si Raoul se trouvait en faction ? Soit à Courbevoie, soit en face de l'hôtel de la rue Murillo ?
À quoi bon ? Pendant qu'elle serait à sa recherche, il pouvait revenir et ne la point trouver.
Mieux valait s'armer de patience et attendre qu'il rentrât. C'est à ce parti qu'elle s'arrêta, mais avec des transes mortelles. Vers 7 heures du soir, on frappa 2 petits coups à la porte. Amanda courut ouvrir et se trouva en face d'un commissionnaire qui lui apportait une lettre dont elle reconnut aussitôt l'écriture, quoique l'adresse fût tracée non à la plume, mais au crayon. C'était l'écriture de Raoul. L'essayeuse congédia le commissionnaire, referma sa porte, déchira l'enveloppe et lut avidement les lignes suivantes. « Mon absence ne doit te causer aucune inquiétude. Je ne rentrerai peut-être pas de la nuit. Nous tenons Paul Armand. Il va nous conduire sans le savoir à la demeure de Soliveau. Une fois chez ce drôle, je me charge de faire main basse sur les papiers qui nous intéressent. Raoul. »
Amanda, quelque peu rassurée par cette lettre, sortit pour aller prendre un potage dans une crèmerie des environs et revint chez elle. À 1 heure du matin, brisée de fatigue, brûlée par la fièvre de l'attente, elle se mit au lit, mais ne parvint point à s'endormir. Retournons au restaurant de la place du Havre et montons dans le cabinet où Paul Armand, Lucien Labroux et Étienne Castel étaient installés. À 8h30 précise, le millionnaire se leva.
« Mon cher monsieur Castel, dit-il, je regrette bien vivement d'être obligé de vous quitter si tôt, mais les affaires sont les affaires. »
« Autant que vous, et plus que vous, nous le regrettons, cher monsieur Armand, répliqua l'artiste. Nous savions d'avance qu'il faudrait nous séparer de bonheur. Nous allons vous rendre votre liberté, et nous irons, monsieur Labroux et moi, faire un tour sur les boulevards. »
Les 3 hommes descendirent ensemble. Étienne Castel aperçut dans la salle du bas Raoul Duchemin, dont le repas était fini depuis longtemps et qui paraissait s'absorber dans la lecture d'un journal du soir. Leurs regards se croisèrent. Un éloquent coup d'œil de Raoul répondit au clignement d'yeux du peintre, et le jeune homme, mettant sous son bras un paquet enveloppé de papier gris qui se trouvait sur une chaise à côté de lui, se tint prêt à sortir derrière les 3 dîneurs. Paul Armand serra la main de Lucien, puis celle d'Étienne, et se séparant d'eux, se dirigea vers la rue de Rome, qui conduit directement à la place de l'Europe. À peine avait-il fait 20 pas que Raoul Duchemin sortait à son tour et prenait chasse. Étienne et Lucien étaient restés un instant sur le seuil du restaurant, allumant des cigares.
« Mon cher Lucien, fit l'artiste, voyez-vous ce jeune homme qui vient de passer près de nous et qui s'en va du même côté que Paul Armand ?»«
Je le vois. Eh bien, mon cher enfant, ce jeune homme viendra peut-être m'apprendre demain matin que nous tenons le véritable assassin de votre père. »«
Que dites-vous ? S'écria Lucien stupéfait en entendant ces paroles.
« La vérité la plus littérale. »«
Est-ce possible ?»«
Possible et probable, je vous l'affirme. »«
Mais comment ?»«
Sans vous en parler, dans la crainte de vous laisser concevoir une trompeuse espérance, j'ai agi. Je suis sur une piste et je vous le répète, demain je pourrai peut-être vous dire « Rien ne vous empêche plus d'aimer Lucie Fortier et de l'épouser. »
« Oh, monsieur, monsieur !» balbutia Lucien en proie à une indicible émotion, en saisissant les mains d'Étienne Castel et en les serrant dans les siennes. « Pourvu que vous ne vous abusiez pas !»«
Une erreur n'est point à craindre. »«
Apprenez-moi donc. » »« Rien en ce moment, » interrompit l'artiste. « Et ne me questionnez plus, je ne répondrai pas. » »«
Rallumez votre cigare qui vient de s'éteindre et allons boire un boc au Café de la Paix. »
Les 2 hommes gagnèrent le boulevard par la rue Aubert. Il était 11 heures du soir quand ils se séparèrent, Étienne Castel pour aller rue d'Assas attendre Raoul, Lucien pour penser au bonheur que lui avait laissé entrevoir l'ex-tuteur de Georges Darier. Les 2 agents avaient conduit Ovide Soliveau au dépôt de la préfecture et l'avaient fait admettre provisoirement à l'infirmerie dans une salle où il se trouvait seul. Le sommeil succédant à la crise nerveuse et qui, presque sans exception, suivait l'absorption de la liqueur canadienne, durait toujours.
« Il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, » dirent les agents. Puis ils se rendirent au cabinet du chef de la sûreté. Celui-ci les reçut aussitôt. Ils avaient l'un et l'autre l'oreille basse. Rien qu'à voir leur physionomie piteuse, le chef de la sûreté jugea qu'ils rentraient bredouilles.
N'y avait-il donc rien de vrai dans la dénonciation qui m'a été faite au sujet de la nommée Jeanne Fortier ? Demanda-t-il vivement.
Tout était vrai, monsieur.
Alors Jeanne Fortier est au dépôt.
Non, monsieur, elle est libre.
Libre ? Vous plaisantez, je pense.
Nous ne nous permettrions point de plaisanter, monsieur.
Et d'ailleurs, il n'y a pas lieu.
Alors expliquez-vous.
Au moment où nous procédions à l'arrestation de cette femme, les gens, très nombreux qui lui offraient le banquet, ont pris parti pour elle, se sont jetés entre elle et nous et ont protégé sa fuite.
Ce soir, la maison sera fermée par mesure administrative. Mais expliquez-moi comment se sont passées les choses.
Voici l'explication, monsieur. Et l'un des agents raconta par le menu au chef de la sûreté ce que nous avons nous-mêmes mis sous les yeux de nos lecteurs. Le magistrat écouta ce récit avec une attention profonde.
« Tout cela est bien étrange, dit-il, et demande une enquête approfondie. Se pourrait-il qu'on ait condamné, il y a 21 ans, Jeanne Fortier innocente ?
Ça n'est pas douteux, monsieur, s'il faut s'en rapporter à ce qu'a dit l'homme qui venait de boire à son insu la liqueur américaine destinée par lui à Jeanne Fortier, et dont le docteur, appelé pour lui donner des soins, connaît les effets.
Savez-vous l'adresse de ce personnage plus que suspect ?
Non, monsieur.
Comment non ? S'écria le chef de la sûreté. L'auriez-vous laissé partir aussi ? Il fallait vous assurer de lui.
C'est ce que nous avons fait, monsieur. Il est à l'infirmerie du dépôt.
À la bonne heure. Le nom de cet homme ?
Ovide Soliveau.
Allez le prendre et amenez-le-moi.
En ce moment, c'est impossible, monsieur.
Pourquoi ?
Sous l'influence de la liqueur absorbée par lui, il dort d'un sommeil aussi profond qu'une léthargie.